Voilà, on commence. On est aujourd'hui mardi 16 décembre. Le cours qui normalement est le cours du Tania, mais comme bon, vous l'avez sans doute deviné, on est aujourd'hui le Yutet qui se lève, le jour de l'an de la Chassidut, Rosh Hashanah de la Chassidut. Et bon, je ne vais pas rappeler tout l'historique de ce jour parce que je vous invite, comme quantité d'autres, à voir les 3 heures de Hidvadout d'hier soir qui sont déjà sur le site. Il y a une grande soirée hier où on a justement expliqué plus sur le plan historique et sur le plan, on pourrait dire, concret par rapport à ce jour, ce que signifie le Yutet qui se lève, pourquoi le Yutet qui se lève, que signifie le jour de l'an de la Chassidut. Donc ces notions-là, je ne vais pas les reprendre parce que de toute façon, elles sont déjà dites par 3 rabbanim différents. Et je vous, encore une fois, je vous recommande vivement d'aller voir donc ces cours sur le site. Mais en ce qui nous concerne, je voudrais reprendre une petite notion que j'ai effleurée hier, qui est extrêmement importante, surtout pour un cours de femme. Et j'ai fait remarquer la chose suivante et je recommence. Vous savez que d'après la Kabbalah, lorsque on écrit un nom, on peut l'écrire avec les lettres telles qu'il apparaît. Par exemple, prenons un nom Abba, d'accord, Aleph, Bet, Aleph. Mais on peut l'écrire aussi en toutes lettres. Ça veut dire chaque lettre, on va l'écrire selon la manière dont elle se prononce réellement. Donc le Aleph va s'écrire donc Aleph, Lamed, P. Le Bet va s'écrire Bet, Yud, Tet. Et à nouveau le Aleph, Tav, à nouveau le Aleph, Aleph, Lamed, P. Ce qui veut dire qu'on a explicité les lettres, on a fait apparaître ce qu'on appelle dans la Kabbalah le milouï, ça veut dire l'intériorité de la lettre qui était cachée en elle. C'est quelque chose de tout à fait magique, extraordinaire en hébreu. Et bien sûr, comme il s'agit du Lashon HaKodesh, ça a un sens extrêmement profond. Les lettres de l'hébreu ont été données de telle manière que chaque lettre contient en elle des lettres cachées. Et qu'est-ce que cela veut nous faire comprendre? Dans la mesure où on sait que l'hébreu, ou plutôt le Lashon HaKodesh, est la langue du divin, c'est le langage du divin, ça vient nous faire comprendre que le monde a été créé selon le principe de quelque chose qui est visible et quelque chose qui, à l'intérieur de ce visible, est invisible et qu'il faut dévoiler. C'est-à-dire que de la même manière que dans le corps il y a une âme qu'il faut dévoiler, tant que tu ne l'as pas dévoilée, elle est donc invisible. De la même manière que dans le monde il y a un Dieu qui est présent mais qui est invisible et qu'il faut dévoiler. De la même manière que dans chaque événement, dans chaque situation, il y a un aspect complètement caché, invisible, qu'il faut faire, qu'il faut dévoiler. Que dans chaque situation que l'on traverse, il y a ce que l'on voit et ce qui est caché. D'une certaine manière, on peut dire que le monde a été créé sur le principe d'une réalité cachée que l'homme doit dévoiler. Et donc vous comprenez tous que la partie que l'on dévoile est la partie fondamentale. Pourquoi? Parce que justement Dieu l'a cachée pour permettre à l'homme de faire son travail, d'être un dévoileur. D'ailleurs, dans le Zohar, il y a un passage où on dit que ceux qui ont cassé la noix rentrent dans le Gan Eden. Pourquoi on les appelle ceux qui ont cassé la noix? Parce que les casseurs de noix, c'est quoi une noix? Une noix, c'est une écorce épaisse qui est immangeable. La plupart des écorces de fruits sont, oui, mangeables, mais la noix, c'est l'écorce par excellence qui ne peut pas être mangée. Donc, les casseurs de noix sont ceux qui comprennent que la vérité se trouve à l'intérieur d'eux et qu'il faut casser l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Et donc, on comprend maintenant pourquoi l'hébreu a été donné sous cette forme-là. Chaque lettre contient elle-même des lettres intérieures. Je reprends l'exemple Aleph, qu'on écrit Aleph dans le texte, mais si tu l'explicites, ça fait Aleph, Lamed, P. Tu as donc fait apparaître 2 lettres qui sont le Lamed et le P. Et, entre parenthèses, tu peux recommencer à l'infini. Parce que le Lamed, tu peux à nouveau l'écrire en toutes lettres et tu vas rajouter même d'Aleph. Et c'est Ensof. Ce qui veut dire que l'infini invisible se trouve dans le fini visible. Tu pars d'une lettre et tu peux arriver à des millions de décompositions. Et donc c'est extraordinaire, on pourrait dire, le symbole qui se cache derrière ça. Et donc, ayant compris cela, on doit donc rajouter ce que j'ai expliqué, c'est que En vérité, l'essentiel de la lettre n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qui est caché. Et donc, fort de ce principe, les Mekoubalim nous ont appris des choses extraordinaires. On aurait déjà pu arrêter le cours là, c'est déjà énormément de choses à méditer. Mais ils se sont interrogés sur les lettres du nom divin, ce qu'on appelle les Milouyim des Shemot HaKedoshim, l'intériorité du nom sacré. Et donc, le nom sacré, le nom divin, on le connaît, c'est Yud, E, Vav, E, les quatre lettres du nom divin. Un Yud, un E, un Vav et un E. Et ils se sont posé la question, bien sûr, ils ont cherché, ils savaient ce qu'ils cherchaient. On va donc faire apparaître l'invisible du nom divin pour voir ce que ça donne. Et donc, on va écrire le nom divin en toutes lettres et on va voir ce que ça donne. Alors, on écrit le Yud en toutes lettres, on trouve Yud, Dalet, Yud, Vav, Dalet, d'accord? Donc, on a rajouté deux lettres qui sont le Vav et le Dalet. On va écrire le He en toutes lettres, et le He en toutes lettres, la convention He, c'est que le He en toutes lettres s'écrit He Aleph. He Aleph, on rajoute un Aleph, c'est une convention grammaticale. Donc, He Aleph, ça s'appelle le He en toutes lettres. On a rajouté un Aleph. Après, on va écrire le Vav en toutes lettres, Vav en toutes lettres s'écrit Vav, Aleph, Vav. On a rajouté donc un Aleph et un Vav. Et après on réécrit le He en toutes lettres, et He en toutes lettres, on a dit que c'est He, Aleph, on a rajouté un Aleph. Ce qui veut dire que sur le nom divin qui était au départ Yud, E, Vav et He, on a rajouté quelle lettre? On a rajouté au Yud un Vav et un Dalet, on a rajouté au He un Aleph, on a rajouté au Vav un Aleph et un Vav, et on a rajouté au dernier E un Aleph. Et donc les maîtres se sont posé la question. Regardons. Maintenant qu'on a les lettres, on va passer aux chiffres. Vous vous rappelez les chiffres et les lettres? Très bien. Donc chez nous, c'est les lettres et les chiffres. C'est la lettre qui nous indique le chiffre. Ce qu'on appelle la gématria. Et ils expliquent. Si on regarde la valeur numérique du nom de Dieu écrit en toutes lettres, avec toutes ces lettres, on trouve 45. On va faire le calcul ensemble. Yud, c'est Yud, non, Yud en toutes lettres, c'est Yud, Yud, Vav, Dalet, ça fait 20. Le He en toutes lettres, c'est He, Aleph, ça fait 6, 26 retenez. Le Vav en toutes lettres, c'est Vav, Alet, Vav, 13 à 26, ça fait 39. Et vous rajoutez He en toutes lettres, He, He, Aleph, ça fait 45. 39 et 6, 45. Et 45, qui est le nom divin écrit en toutes lettres, c'est aussi la valeur numérique du mot Adam. Adam, tiens, un lien incroyable trouvé entre le nom divin écrit en toutes lettres, quand tu fais apparaître tout ce qui est caché dans le nom divin, tu trouves Adam. Vous avez compris pourquoi ? Parce que c'est ça la mission de l'homme. Qu'est-ce que c'est un Adam ? Un Adam, c'est celui qui dévoile tout ce qui est caché au niveau du divin. Un juif qui s'appelle véritablement Adam, c'est celui qui est capable de montrer, de démontrer, de dévoiler que bien qu'on ne voit pas Dieu dans ce monde, moi je vais vous le dévoiler, je vais vous le montrer. C'est ça le sort de dévoiler les lettres. Et quand on a dévoilé toutes les lettres, on a Adam. C'est comme pour nous montrer que nous ne pouvons nous appeler un Adam véritablement que lorsque nous sommes capables de dévoiler, d'abord, commençons par notre propre existence. Lorsque dans ta propre existence, tu arrives à dévoiler Dieu, pas seulement dire je crois en lui, mais le dévoiler, ça veut dire que quand on voit ta vie ou quand on te voit tout de suite, on voit Hachem, tu deviens un modèle du divin dans le monde. Ça veut dire que quand on te voit, on ne peut pas ne pas voir que Dieu existe, parce que ton comportement, ce que tu es, est une lumière qui renvoie à Dieu, comme l'histoire bien connue que j'ai déjà rapportée à toutes les sauces, que quand Darwin a retrouvé ses origines et que donc il a compris qu'il descendait d'un singe, à ce moment-là, il y a un des grands maîtres d'Israël qui a été terriblement choqué. Comment qu'on peut inventer, comment qu'on peut dire une chose pareille? Et il a été chez un autre grand maître pour lui dire, mais tu as entendu ce que l'anglais a sorti comme ânerie? Alors cet autre grand maître lui a répondu, si simplement une fois dans sa vie, il avait rencontré un homme, un vrai, il ne pourrait pas dire une chose pareille. Comme si il n'a jamais rencontré un homme dans sa vie. Il vit au milieu de créatures, de choses, de biduleries. Alors il peut en arriver à penser que l'homme descend du singe. Mais s'il avait rencontré un homme, un vrai dans sa vie, comment il pourrait imaginer que quelque chose comme ça descend d'un singe? Et donc, c'est exactement ce qu'on veut expliquer. Qui est Adam? Celui qui dévoile Dieu. Celui qui, par son vécu, par ses enseignements, par sa manière d'être, témoigne de l'existence de Dieu. Et d'ailleurs, c'est ce que la Torah nous dit. Pourquoi l'homme s'appelle Adam? Parce qu'il est Betzelem Elohim, parce qu'il est à l'image de Dieu. C'est-à-dire quoi, il est à l'image de Dieu? C'est-à-dire que quand tu le vois, tout de suite, tu penses à Dieu. C'est quoi une image? Mais quand tu vois l'image, tu penses à l'être cher qui est représenté sur l'image. Donc quand tu vois un homme, tu penses à Dieu. Vous savez que ça va tellement, tellement loin que c'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle nous n'avons pas le droit, sauf pour des raisons évidemment de qui sont pour le kavod du mort, comme par exemple on attend la famille pour l'enterrement, peu importe, mais on n'a pas le droit d'attendre pour rien un enterrement, et surtout à Jérusalem, plus que partout ailleurs, on doit enterrer pratiquement dans l'heure du décès. Pourquoi? Parce que pour ne pas laisser l'image de Dieu bafouer. Comme ça c'est rapporté. Parce que c'est laisser un mort comme ça traîner aux yeux de tous, alors que dans cet état il a perdu son kavod, puisqu'il ne parle plus, il ne bouge plus, etc. C'est comme bafouer l'image de Dieu. Donc, vite en l'enterre pour ne pas continuer à bafouer l'image de Dieu. Donc, ça va très très loin. Le regard qu'on a sur un homme. Un homme, c'est l'image de Dieu. Mais seulement, c'est pas seulement facile à dire. Faut-il encore le vivre? Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on dévoile toutes les lettres du nom divin, à ce moment-là, on trouve la valeur numérique Adam pour bien nous faire comprendre que qui est Adam? Celui qui dévoile Dieu. Mais c'est pas fini, oui?
Les Kohanim ne sont pas en contact avec le mort.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils
dévoilent
Hachem.
Oui, d'une certaine manière, les Kohanim sont beaucoup plus, concernés par cette notion-là. C'est pour ça qu'ils ne rentrent pas en contact avec le mort. Et le Kohen Gadol, non seulement ne rentre pas en contact avec le mort, mais ne peut même pas faire partie du cortège, comment on appelle ça? Ça veut dire dans la rue. Comme on a l'habitude, jusqu'au cimetière. Il ne peut même pas participer à ça. C'est-à-dire aucun lien avec la mort. C'est-à-dire que plus un homme est censé effectivement être le serviteur de Dieu, et plus il doit s'éloigner de la notion de mort, parce que la notion de mort est comme un affront à Dieu, puisque c'est finalement une image de Dieu qui a perdu provisoirement, en tous les cas, ses forces et sa dignité. Et maintenant, donc, on revient à ce qu'on explique. On a donc compris ce que c'est Adam. Mais les maîtres vont beaucoup plus loin. Ils se posent la question, regardons maintenant la valeur numérique des lettres dévoilées. Puisque toutes les lettres ensemble, les visibles et les invisibles, toutes ensemble, ça fait 45. Mais regardons quelle est la valeur numérique des lettres qui étaient au départ invisibles et qu'on a dévoilées. Dans le Yud, c'est le Vav d'Aleth. Dans le He, c'est le Aleph. Dans le Vav, c'est le Aleph. Vav, et dans le He, c'est le Aleph. Regardons la valeur numérique des lettres qui étaient cachées. Ça veut dire, l'être caché signifie, on pourrait dire, l'âme voilée qui maintenant va être dévoilée dans le corps. Puisque le Yud et Vav et ce qu'on voit, c'est comme le corps. Et les lettres qu'on va dévoiler, c'est comme l'âme qui était cachée à l'intérieur du corps. Dévoilons ça. On calcule la valeur numérique. Et on trouve 19, la valeur numérique de Chava. Valeur numérique de Chava. Regardez la beauté de la Torah. On s'arrête, on marque une minute de silence et on dit, mon Dieu que tu es beau. Comment? Regardez. Regardez la merveille de notre Torah. Regardez, c'est de la folie. Rien qu'avec quelques petites clés, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de plus merveilleux que la Torah? Regardez, on part du nom de Dieu. Et on retrouve Adam et Chava. Adam 45, Chava 19. 19, pourquoi le cours d'aujourd'hui 19? 19 qui se lève, Yutet qui se lève. Aujourd'hui c'est 19 qui se lève. On retrouve donc 19. Oui.
En plus, Rava a été prise de Adam.
Mais justement, alors maintenant, évidemment, vous pouvez vous mettre à ma place, ça ne dérangera pas, c'est exactement. On comprend effectivement. Comment qu'on fait apparaître 19 du nom divin? On a dévoilé, on a fait sortir ce qui était caché de l'intérieur du nom divin. Donc, le nom divin avec toutes ses lettres, on a vu que c'est 45, c'est Adam. Les lettres qui étaient voilées, qu'on dévoile, c'est 19, c'est Chava. Donc c'est exactement ce que la Torah nous dit, comment on a fait apparaître Chava, en la faisant sortir de l'intérieur de Adam. Elle était inclue dans, elle était à l'intérieur d'eux, et Dieu donc a ouvert Adam pour faire jaillir de lui, pour faire sortir de lui Chava. Donc Chava, et on le retrouve d'une manière extraordinaire, Chava est donc l'intériorité cachée de l'homme. Ça, c'est Chava. On a expliqué maintenant que le Adam, c'est celui qui dévoile Dieu. Et c'est quoi Chava? Chava, c'est la dimension profonde et cachée de l'homme. Mais en vérité, quand je dis de l'homme, je préfère dire du monde, puisque Adam ici, dans le sens, celui qui est le microcosme du monde. Et donc, première étape, qu'est-ce que c'est Chava? C'est la dimension cachée, enfouie au plus profond du monde. Et comme le monde est lui-même à l'image de Dieu, qu'est-ce que c'est Chava? C'est la profondeur cachée de Dieu. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi nos maîtres disent « Kol kvoda bat meler pnima ». Tu veux savoir c'est quoi véritablement la dimension féminine? Pnima, l'intériorité. L'intériorité, la femme est celle qui dévoile l'intériorité. Elle va dévoiler l'intériorité de son mari, elle va dévoiler l'intériorité du monde, elle va dévoiler l'intériorité de Dieu. Qu'est-ce que c'est un dévoileur d'intériorité? C'est une clé. Quand on veut rentrer à l'intérieur d'eux, on a besoin de quoi? D'une clé. Pour rentrer à l'intérieur du monde, on a besoin d'une clé. La clé du monde, c'est la femme. La clé du monde, c'est la femme. Comment? Ça va. Aujourd'hui, je suis en forme, c'est le 19 qui se lève. Donc je suis en forme. Et donc, la femme, c'est la clé qui ouvre la porte du monde. Mais seulement, c'est pas seulement flatteur, parce que si c'était qu'une flatterie, on s'appellerait Corneille. Les flatteries de... Vous avez oublié, moi aussi. Peu importe. Et donc, peu importe. Si c'était uniquement une flatterie, donc ça ne serait pas intéressant, mais c'est beaucoup plus qu'une flatterie, c'est avant tout et surtout, comme chaque enseignement de la Torah, une responsabilité. Ça veut dire que si je dis que la dimension féminine, la femme, est la clé qui ouvre la porte du monde, qui ouvre la porte de l'intériorité, ce qui veut signifier que tout ce qui est fermé, c'est la faute à qui? C'est la faute des femmes. Et c'est exactement ce que nous dit la Torah. Pourquoi la Torah, justement, prend le modèle schématique, parabolique de la faute qui passe par la femme? Première question. Deuxième question, alors pourquoi on appelle ça la faute de Adam, puisque apparemment tout semble dire que c'est la faute de la femme. Alors d'abord comprenons, pourquoi ça passe par la femme? Parce que effectivement, quand le Nahash, le serpent qui bien sûr n'est pas un serpent comme on l'imagine, mais le symbole du mal qui veut empêcher le monde d'aller à sa réparation, lorsque les forces du mal veulent empêcher le monde d'aller à sa réparation, à qui elles vont s'attaquer ces forces-là? À la femme. Forcément, pourquoi? Parce que les forces du mal savent que la solution à tous les problèmes, c'est la femme. Si la femme fonctionne comme elle doit fonctionner, tout va fonctionner comme ça doit fonctionner. Si la femme dysfonctionne, tout dysfonctionne, rien ne marche.
La femme, elle fonctionne que quand elle se tait.
Comment?
J'ai remarqué que quand on se tait, ça marche.
Il y a des fois, il faut savoir parler. Sarah, quand elle a ouvert la bouche et qu'elle est intervenue à ce moment-là, et ça a sauver le monde. Mais ça dépend. En tous les cas, on a donc compris pourquoi le Nahash vient chez Chava. C'est là que le problème va se jouer, parce que si Chava oublie qui elle est, si elle oublie son rôle, si elle perd le sens de sa véritable valeur et de sa véritable force, à ce moment-là, le monde est perdu. La question était, mais alors pourquoi on appelle ça la faute de Adam à Rishon? Alors je ne vais pas consacrer un cours à cette réponse-là parce que j'en ai déjà parlé à différentes reprises, mais c'est la faute de Adam à Rishon en ce sens que Adam à Rishon non seulement n'a pas aidé Chava à comprendre qui elle était, mais il s'est arrangé d'une certaine manière pour lui cacher qui il était, qui elle était, parce que ce n'était pas tellement flatteur pour Adam d'admettre que son salut devait passer par elle. Et donc Adam à Rishon, d'une certaine manière, a voilé à sa propre femme sa propre grandeur, comme pour ne pas, entre parenthèses, à ses yeux idiots, s'humilier. Parce qu'il reconnaît que sans elle, il n'est rien. Et d'ailleurs, Dieu lui avait dit clairement que sans elle, tu n'es rien. Quand c'est qu'il lui avait dit, Lotov eyot Adam levado. Tant que tu es seul, tu n'es pas tov. Et pas tov signifie que tu n'as rien. Le tov étant le fondement de l'existence. D'où savons-nous que le tov est le fondement de l'existence? Parce que quand Dieu a créé le monde, après chaque jour, lorsqu'il termine de créer, qu'est-ce qu'il disait? Tov, tov, tov. C'est-à-dire que tov, c'est la gushpanka. Ça veut dire c'est la chotemet. Ça veut dire en français, c'est la signature. Tu as vu quelque chose? Tu l'as lu, ça te plaît, tu signes, c'est bon, acquiescer. Donc le mot Tov dans la Torah signifie que la chose est comme elle doit être. Et quand Hachem dit à Adam, Lo Tov eyot Adam leo, c'est-à-dire je ne mettrai pas mon sceau sur toi tant que tu n'auras pas une femme à tes côtés. Alors évidemment, pour Adam, ce n'est pas très flatteur. Et donc quand elle va être créée, Chava, il va s'arranger pour en vérité la minimiser et surtout lui voiler ce qu'elle est. Comment on l'apprend du fait qu'il lui a menti. Comment il lui a menti? Quand il lui a transmis l'ordonnance divine de ne pas manger de l'arbre, il a rajouté, au lieu de dire Dieu nous a demandé de ne pas manger, il a rajouté de ne pas manger et de ne pas toucher. Et les commentaires posent la question, mais attends, je ne comprends pas, il y a marqué nulle part qu'il ne faut pas toucher. Pourquoi Chava a dit au Nachash qu'on ne doit pas toucher? Mon maître répond, parce qu'elle avait entendu de son mari qu'il ne fallait pas non plus toucher. Et pourquoi Adam lui avait dit faut pas toucher? Genre, toi t'es trop sotte pour que je te dise la vérité. Si je te dis qu'on ne doit pas manger, je te connais, d'accord? Tu as l'esprit léger, tu vas commencer à t'approcher, tu vas commencer à respirer, tu vas commencer à regarder, tu vas la prendre dans ta main, et puis voilà. Donc je préfère te dire tu t'approches pas parce que je sais les femmes sont sottes. C'est exactement ce que cela signifie. Et donc, par le fait qu'il lui a rajouté quelque chose, il lui a témoigné comme pour l'humilier du fait qu'il n'avait pas confiance en elle. Et c'est pour ça que la Torah dit c'est la faute de Adam. Parce que tu as caché à la femme sa véritable dimension, tu lui as fait croire et elle l'a cru qu'elle était inférieure à toi et que d'une certaine manière, on avait besoin de prendre de grosses précautions parce qu'on n'avait pas confiance en elle. Et d'une certaine manière, en tombant, en baissant à son propre regard, comme on dit en français, en perdant sa propre dignité, non, c'est pas seulement... En ne connaissant pas sa propre valeur, c'est comme ça qu'on en est arrivé à fauter. Donc en tous les cas, il y aurait encore bien sûr énormément de choses à rajouter là-dessus, mais en tous les cas on comprend, par tout ce qu'on a mis en évidence, que effectivement la femme a un rôle fondamental. Tout a commencé avec une femme qui a oublié ce qu'elle était, et à chaque fois que ça va mieux dans l'histoire, c'est parce que se lèvent des femmes qui comprennent qui elles sont. Selon le langage de nos maîtres, Besrut Nashim Tzadkaniyot, on est sorti d'Égypte grâce au mérite des femmes vertueuses, et on sortira du dernier exil grâce au mérite des femmes vertueuses. Ça veut dire lorsque se lèvent des femmes qui disent, mais attends, mais ça dépend de nous. Il faut qu'on arrête de croire que ça dépend d'eux. Ça dépend de nous. C'est nous qui devons faire que. Et donc maintenant, on va revenir au Yutet qui se lève. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, il faut comprendre que l'un des fondements de la Torah, et plus particulièrement un des fondements de la Chassidut, c'est de comprendre que tout ce qui se passe dans ce monde est Be'ashgacha Pratit, tout ce qui se passe dans ce monde est le fruit d'une intention providentielle, calculée, voulue, rien n'échappe à son contrôle, rien n'est le fait du hasard, rien n'est de l'à peu près et du plus ou moins. Tout est extrêmement précis. Et donc il est clair que si la Providence a voulu que le jour de l'an de la Chassidut tombe un Yud-Tet qui se lève avec toute la symbolique du chiffre 19, on comprend qu'il y a là une indication extraordinaire. À partir du moment où on a expliqué que le chiffre 19 fait allusion au féminin en tant que clé qui mène à l'intérieur des profondeurs, puisque les 19, le chiffre 19 sont toutes les lettres qui étaient cachées, qui se sont maintenant dévoilées. Donc le chiffre 19 symbolise justement le dévoilement de ce qui était caché. Et vous comprenez maintenant pourquoi, d'une manière extraordinaire, le nouvel an chassidique commence le 19 qui se lève. Parce que c'est exactement... c'est ça toute la vocation de la chassidoute, c'est de dévoiler tout ce qui est caché dans la Torah. La Torah, elle se présente un petit peu comme le nom divin à quatre lettres, Yud, E, Vav, E, tu vois quatre lettres qui sont d'une certaine manière les quatre parties de la Torah qu'on appelle le Pardes, le Pshat, le Remez, le Drash, le Sod, les quatre parties de la Torah qui sont les quatre niveaux de la Torah. Et donc ça se présente comme quelque chose apparemment bon, de très précis du début jusqu'à la fin, que tu vois, que tu comprends, que tu peux étudier. Et tout d'un coup viennent les secrets de la Torah, et plus particulièrement la chassidoute, et la chassidoute te dévoile, qu'en vérité tu n'as rien vu, tu ne savais rien, que l'essentiel, il faut le dévoiler. Et donc ça a été depuis le départ la vocation de la chassidoute, comme je vais expliquer maintenant. Donc on a déjà compris pourquoi le 19. Mais avant d'expliquer aussi pourquoi le 19, qui est une dimension féminine, ça je ne l'ai pas encore dit par rapport à la chassidoute, revenons un petit peu en arrière et remontons aux origines de la chassidoute. Car la chassidoute n'a pas commencé le 19 qui se lève, qui est en vérité le jour de la libération du Baal HaTanya de prison après 53 jours en prison. Il est libéré le 19 qui se lève. Le Baal HaTanya est plus précisément le fondateur de la chassidoute Chabad. Donc d'une certaine manière, le 19 qui se lève est plus exactement le jour de l'an ou la naissance de la chassidoute Chabad, qui commence avec la libération du Baal HaTanya, car on a cru qu'il allait rester là-bas, mourir, et que finalement il n'y aurait pas de suite. Et le jour où il est sorti de prison, il a annoncé que maintenant naissait un nouveau courant qui accompagnerait le Ham Israël jusqu'à la délivrance finale. Et c'est le courant qu'on appelle le courant Chabad qui a commencé avec lui. Mais il faut connaître et surtout être honnête et savoir que la chassidoute n'a pas commencé avec lui. La chassidoute a commencé deux générations avant, avec son maître et le maître de son maître, qui était son maître à lui, le Maguide de Mezritch, et le maître de son maître, qui était le Baal Shem Tov. La chassidoute commence avec le Baal Shem Tov. Et là, c'est quelque chose qui est très important, que je vais vous expliquer. Comment la chassidoute a commencé avec le Baal Shem Tov? En vérité, comment, ça prendrait plusieurs heures de cours. Mais je vais prendre le point essentiel, celui qui, d'après la tradition chassidique, est véritablement, on pourrait dire, le Bereshit Bara Elohim, le premier verset de ce qu'on appelle Torah HaChassidut. C'est un fameux témoignage du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov témoigne du fait, il écrit à son beau-frère, et il témoigne du fait que son âme a quitté ce monde, il n'est pas mort, mais son âme a quitté ce monde, elle est montée dans les sphères supérieures, elle est arrivée jusqu'à un endroit connu dans le Zohar qui s'appelle Echal HaMashiach, le palais du Mashiach, c'est-à-dire là où l'âme du Mashiach elle-même se trouve et attend lors de descendre et de s'incarner dans le monde pour le délivrer. Et donc cette âme monte, elle arrive, c'est un témoignage donc de la plume du Baal Shem Tov, elle arrive jusqu'au Echal HaMashiach, et à ce moment-là, le Baal Shem Tov lui demande « Quand c'est que tu vas venir ?»« Matai ka atemor ?»« Et matai ka atemar ?»« Quand vas-tu venir ?» Et le Mashiach lui répond « Kshayafutsu ma'inotecha chutsa »« Lorsque tes sources se répandront à l'extérieur. » Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov comprend que finalement, il faut qu'il dévoile quelque chose, des sources qui vont permettre justement la venue du Mashiach. Et ces sources-là vont après devenir ce qu'on appelle aujourd'hui la chassidoute. Et essayons de comprendre pourquoi on appelle ça des sources. Qu'est-ce que c'est une source en vérité? Une source, c'est à un endroit apparaît de l'eau que la Torah appelle Mayim Chayim, de l'eau vivante. Et on va tout de suite savoir pourquoi de l'eau vivante. Mais d'où elle vient d'abord cette eau-là? Elle vient, en vérité, des profondeurs de la terre. Et après avoir traversé le sol sur des centaines de kilomètres, voire même des fois des milliers de kilomètres, et là où on voit la source, on ne peut pas du tout deviner, à moins de faire des études très précises, où l'infiltration a commencé. Il se peut que la source qui jaillit à cet endroit-là provient d'une infiltration qui a commencé à 500 ou à 1000 ou 2000 ou 3000 kilomètres ailleurs. Et donc, après, cette infiltration a pénétré le sol, et pendant des kilomètres et des kilomètres, tout se passe sous la terre, et tout d'un coup, il y a un jaillissement. Et donc, on a une indication, là encore, qui est liée au problème donc, du dévoilement de ce qui est caché. La chassidoute est appelée source, dans le sens de dévoiler de quelque chose qui était au départ caché. Et pourquoi la Torah, pas seulement la Torah orale, mais la Torah écrite, pourquoi la Torah en général appelle une source Maïm Haïm? Pourquoi de l'eau vivante? Pourquoi de l'eau vivante? Alors il y a des explications très simples, parce que bon, tout ce que c'est de l'eau qui bouge, donc elle est vivante. Mais c'est bien sûr plus profond que ça. Elle est vivante en ce sens que là, la Torah nous donne une indication. C'est quoi la vie? La vie, c'est un dévoilement. Vivre, c'est dévoiler. On a expliqué que homme, c'est celui qui dévoile Dieu. Femme, c'est celle qui dévoile l'homme. La vie, c'est un dévoilement. Ça veut dire que l'ensemble de tous les dévoilements s'appelle la vie. Tant qu'une chose est voilée, tant qu'elle est cachée, c'est un état de mort. Quand tu dévoiles, tu vis. Donc à chaque fois que tu as un problème et que tu ne comprends pas la raison du problème, tu es en état de mort. On comprend pourquoi nos maîtres nous disent que les réchaïm, les gens foncièrement mauvais, sont appelés morts même de leur vivant. Parce que c'est quoi la définition d'un rachat? Un rachat, celui qui dit je me fous de tout, je vis le jour et puis après moi le déluge. C'est un rachat. Celui qui refuse la vie, celui qui refuse le dévoilement. Donc, on comprend pourquoi, et c'est une indication, ce qu'on pourrait dire un petit peu d'ordre psychologique, une clé que je vous donne aujourd'hui, vous en ferez ce que vous voulez, c'est qu'à chaque fois qu'on se sent triste, on se sent abattu, on se sent mal de vivre, il faut savoir qu'on manque donc de vie, d'accord ? Et on manque de savoir ce qui se passe. En vérité, comment qu'on arrive à une dépression qui des fois peut être très légère, une tristesse, un mal de vivre, un cafard, une angoisse, comment qu'on arrive? À force d'accumuler des questions sans réponse. Au moment où ça arrive, on ne se rend pas compte vraiment. C'est une petite question, bon, ouais, on passe. Encore une. On refoule, on a installé la mort en nous. Parce qu'on a refusé de dévoiler au moment où on aurait dû dévoiler. Je ne parle pas, attention, je ne parle pas de, on pourrait dire, de choses sur lesquelles on nous demande la émouna. Mais même quand on nous demande la émouna est en soi une réponse. Quand je dis une réponse, je ne vois pas forcément une réponse logique cartésienne. Il m'est arrivé ça à cause de ça. J'ai traversé telle chose à cause de telle chose. Non, je ne parle pas de ça. La non-réponse est un petit peu, si vous voulez, le « je m'en foutisme ». Ça veut dire « je ne cherche pas à savoir ». Il t'arrive quelque chose, bon, c'est comme ça, c'est le hasard, concours de circonstances, je ne sais pas. Cette manière de vivre sans s'interroger. Des fois, on s'interroge et on n'a pas d'autre réponse que Emouna. Mais au moins, tu t'es interrogé, tu as donné une réponse, Emouna. La Emouna est une réponse. Ce qui n'est pas une réponse, ce qui est la mort, c'est quand tu fermes court à tout questionnement. Il n'y a pas à poser de questions, c'est comme ça, c'est le hasard. D'accord? C'est le hasard. Le hasard, c'est quelque chose qui est zar. Hasard, c'est zar, c'est étranger à la mentalité d'un juif. Un juif refuse le hasard. Pourquoi? Parce que le hasard, c'est la mort. Sache qu'à chaque fois que tu aurais pu t'interroger et que tu ne l'as pas fait, tu vas mourir. Après, ça peut être au bout d'un mois, deux mois, trois mois, tout d'un coup, tu traverses une grosse dépression. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas d'où ça vient. Parce que tu as installé le hasard en toi. Tu as installé le je m'en foutisme en toi. Et à ce moment-là, paf, tu es pris. Donc c'est pour ça que les eaux qui sortent de la terre s'appellent Chaïm, parce que si tu ne dévoiles pas, si tu laisses les choses en souterrain, tu es mort. Et pourquoi, plus que toute autre chose, c'est les eaux qui sont appelées Chaïm? En vérité, il y a une autre chose en toi qui est appelée Chaïm, c'est la Neshama. Vaipar be'apav nishmat Chaïm. Dieu a soufflé en lui une âme de vie. Et il y a une troisième chose qui est appelée Chaïm dans la Torah, Etz ha-Chaïm, l'arbre de la vie. On a donc trois choses qui sont appelées Chaïm. On a l'arbre de la vie, on a l'âme et on a l'eau. Maintenant, ça c'est déjà dans la Torah chez Béalpé, ça veut dire on pourrait dire dans la Torah orale, je ne vais pas dans la Torah écrite. Regardez, ces trois choses-là ont un point commun. Elles apparaissent à partir de quelque chose qui était complètement caché. L'arbre jaillit de racines qui sont à l'intérieur de la terre, qu'on ne voit pas. Et si quelqu'un n'a pas fait un petit peu de sciences naturelles, il ne saura pas que l'arbre a des racines très profondes, des fois qui font des mètres sous terre. L'âme est cachée. Et même lorsqu'elle se dévoile par le fait que le corps vit, et pas tout le monde sait que le corps vit et bouge grâce à l'âme. L'eau, on l'a expliqué, la source, Maïm Chaïm, elle est d'abord cachée puis elle surgit. Donc on voit que toute chose qui est cachée et qui surgit à un moment s'appelle Chaïm. Et c'est pour ça que l'homme aussi s'appelle Chaïm, en ce sens qu'il est appelé qui a Adam et a Sadé. L'homme, il est comme l'arbre des champs. C'est-à-dire que lui aussi, il a des racines qui sont très profondément enfouies à l'intérieur de lui-même et il doit dévoiler. Jusqu'au dévoilement qui est le plus grand, qui s'appelle quoi? Le fruit. Comment c'est un arbre? Il commence par un voilement total, les racines, puis après un tronc s'élève, mais on ne peut encore pas en profiter, après les branches, les feuilles, et enfin seulement le fruit. Et c'est uniquement le fruit qui, on pourrait dire, qui est l'aboutissement, qui est le dévoilement total. Pourquoi le fruit est l'aboutissement total? Parce que regardez, une chose absolument incroyable, tout ce que l'arbre va faire, pendant combien de temps? Pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, quelques mois, peu importe, selon le temps qu'il faut pour un arbre de pousser. L'aboutissement, c'est pour produire quelque chose qui ne lui sert à rien. Qui n'est que pour l'autre. Que pour donner. Vous imaginez tout un tas à lire, tout un processus qui commence des plus profondes, des plus grandes profondeurs de la terre. Et l'aboutissement, c'est pour qu'un homme passe, lui arrache son fruit, le mange, et il lui dit ni zut ni merci. Pourquoi tu existes, arbre? Pour qu'on me prenne mes fruits. Et la Torah nous dit qu'il y a Adam et Asadé. Ah non, moi je ne serai pas la bonne poire de tout le monde. Hein? La bonne poire, ça vient de là. D'où vient l'expression bonne poire? Mais parce que les gens avaient l'habitude de quoi? De passer en dessous des poiriers et de décrocher des poires. Et alors, les gens se sont dit, les Français à l'époque, les paysans ont dit, ah non, moi je ne veux pas être comme une poire, hein, ça veut dire comme un poirier ou comme une poire, que moi tout ce que je fais, et puis après ça va servir aux autres, et moi, et moi, et moi. Comme j'expliquais dans le contexte, pourquoi il s'appelait du tronc? Lui, il veut que le tronc, il ne veut pas les fruits. Le tronc, il est que pour moi, personne ne le mange. Donc automatiquement, celui qui chante « et moi, et moi, et moi », il s'appelle forcément du tronc. Sinon, il aurait dû s'appeler du fruit. Voilà. Et donc, il s'appelle du tronc. C'est-à-dire donc que tout pour moi, rien pour les autres. Connais? Dieu aussi, mais... Voilà. Et donc, automatiquement, on comprend que l'arbre, la bonne poire, c'est quelque chose qui est absolument incroyable. Tout un processus pour finalement ne servir qu'à l'autre. Vous en connaissez beaucoup des hommes qui sont capables de vivre comme ça. Vous en connaissez beaucoup des hommes qui sont capables de dire « Je vais mettre en œuvre tout un monde dans lequel je vais trimer pour que ça serve à d'autres. » Et moi, je ne vais rien retirer de ça. Ma seule satisfaction, c'est que j'aurais fait pour les autres. C'est pour ça que quand la Torah nous dit que l'homme est un arbre, elle parle de la dimension la plus extraordinaire qu'il y a au niveau d'un homme, et des hommes comme ça vous en comptez un quart tous les 150 milliards d'années. Où on trouve des hommes pareils? Un homme qui est kol kulo loli, la haine. Pas pour moi, pour les autres. Donc c'est quelque chose qui est très 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 haut. On comprend tous les blocages à être comme ça. Pourquoi je vais être la bonne poire? Pourquoi je vais être ci? Et puis il va se foutre de moi. Pourquoi il va profiter? Il a qu'à donner lui aussi. On connaît tous les arguments du Yetzera pour m'empêcher d'être un arbre. Ou plutôt d'être une poire. On les connaît. Ça, on n'a pas besoin de lui, on les connaît mieux que lui. Mais ceci dit, la Torah ne nous dit pas comme ça. Sois la bonne poire. C'est pas grave. Parce que de toute façon, c'est pour ça que l'homme a été créé. Pourquoi? Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Je vous pose la question, quelle est la plus grande bonne poire de l'existence? Mais c'est le bon Dieu lui-même. Mais bien sûr. Et il a besoin de nous. Il retire quelque chose de nous. S'il a besoin de nous et qu'il retire de nous, c'est donc la preuve qu'il lui manque quelque chose. S'il lui manque quelque chose, c'est qu'il n'est donc pas Dieu. 1 plus 1 égale 2. Donc par définition, s'il est Dieu, c'est qu'il n'a donc besoin de rien. Et s'il a besoin de rien, pourquoi alors il nous a créés? Ben, la réponse est évidente, parce que c'est une bonne poire. Ça veut dire qu'il ne veut que donner. Et c'est exactement ce que disent les plus grands Mekoubalim, le Ari Akadosh, etc. Pas dans mon langage à moi, mais dans leur langage à eux. Moi, je ne fais que le traduire dans mon langage à moi. Ils disent Kevan Sheteva Atov Leitiv. L'essence même du bien, c'est de faire du bien. Dieu étant l'essence du bien, automatiquement il fait du bien, ce que j'appelle moi une bonne poire, dans le bon sens du terme. Donc, l'homme véritable est celui qui veut ressembler à Dieu. Toi, tu es la bonne poire de tous, moi je serai la bonne poire d'autres. Voilà. Et donc, ça, c'est la définition de la vie véritable. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est toujours joyeux? Qu'est-ce qui fait qu'un homme est toujours plein de force et d'optimisme? Parce qu'il est une bonne poire. Il ne garde rien pour lui. Il donne. Et la Torah nous révèle que si tu es comme un arbre qui donne, si tu es comme une source qui cesse d'être cachée égoïstement et qui sort et qui se donne à tout celui qui en a besoin pour la boire, si tu es comme une âme qui a le rôle tellement ingrat d'être cachée que personne ne voit et d'être tout, puisque sans elle il n'y a pas de vie, si tu es comme ça, tu seras vivant. Maintenant, de toutes les créatures, celle qui incarne la vie, c'est Chava. Et pourquoi? D'où on le sait? Pourquoi on l'a appelée Chava? Ki aita em kol chai. Chava, c'est em kol chai. La mère de toute vie. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de plus vivant que Chava? Qu'est-ce qu'elle représente? D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? D'accord? Location gratuite, 9 mois de location gratuite. Nourrie, logée, blanchie. D'accord? Mais il y a des locataires qui ne détruisent pas tout lorsqu'ils louent. Là, le locataire, il détruit tout. Le fer, le magnésium, etc. Il prend tout, il laisse rien. Au bout du troisième locataire, c'est déjà très compliqué ce qui se passe dans le corps de la femme. Donc, un locataire qui s'installe, qui ne paye pas de location, et il part avec les dents, le fer, les magnésiums, le calcium de sa mère. Fédère. Et puis, le propriétaire est tellement bonne poire que quand il sort, il l'embrasse, il le remercie, etc., etc. Et puis il lui dit, bon allez, c'est encore à louer. D'accord. C'est incroyable. Voilà. Et il continue à lui dire, tiens, prends mon fer, mon magnésium, mon calcium, continue à pomper, pomper, pomper. Vous en connaissez une bonne poire comme ça? C'est une bonne poire. Et puis quand il lui reste encore une demi-heure par-ci, par-là pour dormir, il faut se réveiller, puis comme un somnambule, il faut s'occuper du bébé, ta 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 ta. D'accord? Alors, effectivement, malheureusement, la plupart des femmes d'aujourd'hui ont refusé et refusent d'être des bonnes poires, mais ce qu'elles ne savent pas, ou elles savent trop bien, mais elles ne veulent pas l'avouer, c'est qu'elles ont aussi perdu leur identité. Et c'est pour ça qu'elles sont tellement malheureuses. Parce qu'à partir du moment où tu ne veux plus être une bonne poire, ça veut dire ce qui est ta nature profonde, et c'est comme ça que tu te réalises, automatiquement tu vas te dénaturer, tu vas crever à l'intérieur de toi-même. Mais en tous les cas, peu importe, c'est ça l'essence de la bonne poire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la bonne poire? La bonne poire, elle tient sa maison. La bonne poire, elle est toute sa maison. Elle est à Keret Abayit. Elle est dans les Shama. Elle est le Dieu. Elle est tout ce que vous voulez dans sa maison. Après arrive le roi, il s'installe, d'accord, comme un pacha, les pieds sous la taille, il manque du sel, il manque de ci, il manque de ça, ta 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 ta, et la bonne poire, elle est là, oui mon roi, oui mon maître, machin. D'accord. La bonne poire, elle est comme Dieu. Elle est comme Dieu. C'est pour ça qu'elle est la seule à pouvoir dire, Shasali, Kirtsono. D'accord. Tu m'as fait selon ta volonté. Qui c'est qui peut dire tu m'as fait selon ta volonté? Qui a le culot de dire « Je suis selon ta volonté ?» Mais quand c'est que je fais ta volonté? Quand je peux dire « Je suis l'expression de ta volonté ?» Les femmes continuent à se torturer, disent « Mais pourquoi les hommes disent « Shelo Asani Isha ?» Mais c'est pas important, oui, non, qu'est-ce, il y a mille réponses à ça. Mais arrêtez de regarder ce que les hommes disent, regardez ce que vous dites. « Shasali Kirtsono », vous connaissez une créature au monde qui peut se mettre devant tenir devant le maître du monde et qui dit « Je suis selon ta volonté, fier et digne de l'être ». C'est ça ce qu'une femme dit. Pourquoi? Parce que c'est la seule créature vivante qui ressemble à Dieu. Ça c'est Yutet. Ça c'est Chava, Em Kol Chai. Et c'est ça la chassidoute. Un chassid, c'est celui qui justement va vouer sa vie à être la bonne poire de tous. Et je n'ai pas le droit et je ne veux pas le faire, mais je le ferai quand même, de lier le cours d'aujourd'hui, les Ilui Nishmatam des Shluchim et de tous ceux qui étaient avec eux. Mais regardez, si proche Yutet Kislev, puisque ça s'est passé en Kislev, qui est le mois de la Chassidut. Rosh Chodesh Kislev. Donc le jour qui nourrit, y compris Yutet Kislev. Regardez ce que c'est deux bonnes poires. Deux bonnes poires qui sont tous les deux de bonne famille, qui auraient pu se la couler douce, d'accord, dans un quartier, dans une ville religieuse, avec papa, maman, le Beth Knesset, etc. Comme beaucoup de non-bonnes poires font. D'accord. Et eux sacrifient tout pour être des bonnes poires qui terminent leur vie avec chacun une balle dans la tête. D'accord. C'est ça la bonne poire. Ça, c'est la chassidoute. Ne comprenez pas mal ce que je veux dire. Mais si on devait apporter un symbole de ce que c'est un chassid, on comprend pourquoi, si ça devait se passer, ça ne pouvait se passer que Rosh Chodesh qui se lève. Le mois de la chassidoute. Ça ne pouvait que se passer. Si déjà Dieu avait décidé de les reprendre, il ne pouvait que choisir Rosh Chodesh qui se lève. Parce qu'à travers leur mort, ils sont le témoignage vivant de ce que c'est une vraie bonne poire. Parce que Dieu nous dit, moi aussi je suis une bonne poire. Et toutes les vraies femmes disent, nous aussi on est des bonnes poires. Et eux disent, nous aussi on est des bonnes poires. Mais rira bien qui rira le dernier, le monde n'a été créé que pour les bonnes poires. Allez. Allez. Ça c'est un chassid. Chacun d'entre nous, pour que ça ne soit pas seulement de belles et grandes paroles, chacun d'entre nous, aujourd'hui, comme c'est le cas dans chaque fête où on doit tirer quelque chose, et même si on ne se sent pas à 100% chassid, chabad, mais puisque la providence fait que vous venez à ce cours et que vous l'avez écouté aujourd'hui, et que vous venez à des cours de Tania, et que vous êtes tous, consciemment ou non, bevadaï, attachés à la chassidoute, ce qu'on doit retirer de ce cours-là, c'est que un homme doit comprendre une fois pour toutes que la raison véritable pour laquelle il est venu sur terre, c'est pour être comme un arbre qui donne des fruits qui sont pris et emportés par d'autres et qui me laisse sans mes fruits, sans rien. Je ne retire rien de ça, mais c'est le but et le sens de ma vie. C'est le but et le sens de ma vie. Alors bien sûr, pas tout le monde peut être à ce point des bonnes poires comme ceux qui ont été assassinés à Bombay. Pas tout le monde peut être une super bonne poire comme le bon Dieu. Pas tout le monde peut être une super bonne poire comme les vrais chassidim. Mais chacun d'entre nous doit essayer d'être un petit peu ce poirier et de pouvoir donner sans calcul. Arrêtons de calculer, ça me rapporte ou ça ne me rapporte pas. C'est bon pour moi ou c'est bon pour moi. C'est un profiteur celui à qui je vais donner ou c'est pas un profiteur. Il mérite ou il ne mérite pas. Laisse-toi prendre tes fruits.
Sans sélection.
Comment?
Aucune sélection.
Déjà, fais-toi l'idée de te laisser prendre tes fruits. D'accord. Parce que vous voyez, c'est une question. C'est une question qui est tellement juste que c'est une question qui est piège. Parce que c'est ça ce que le Yetzera fait constamment. Il ne fait que poser de bonnes questions. Parce que votre question, elle est incontournable. Mais comprenez que nous refusons d'être des arbres parce que justement nous sommes constamment harcelés par ces justes et bonnes questions. C'est vrai qu'il y a forcément une limite, c'est vrai qu'il y a forcément un calcul, c'est vrai qu'il y a forcément un oui mais. Le problème c'est que si ça t'empêche de commencer à être une bonne poire, sache que ça vient du Yetzerara. Je terminerai en disant la chose suivante. Le Tanya enseigne, le Balatanya, puisque ce jour est son jour, le Balatanya enseigne la chose suivante. Et il le signe en lettres de feu dans le Tanya. Il dit, toute pensée qui te vient, aussi fondée, aussi juste et aussi sainte soit-elle, sainte dans le sens qu'elle provient vraiment d'une réflexion saine, si la conséquence c'est que tu ne fasses pas, sache que ça vient du mauvais côté. Si sauf qu'on sauf, le but c'est que tu voulais faire quelque chose de bien et que tu te convaincs de ne pas faire, sache, le Balatanya dit avec certitude, ça vient du mauvais côté. C'est impossible que le bon côté puisse te décourager de faire du bien. Ça veut dire que tu avais l'intention de faire une action bonne. Et tout d'un coup, mille et une très bonnes questions sont surgies à ton esprit. Et tu as fait un très bon calcul. Et tu as pris de très bons conseils. Et on t'a surtout demandé, convaincu de ne pas du tout faire la chose. Conclusion, tu t'es fait avoir comme un bleu. Parce que si la conclusion c'est que tu ne fasses pas, tu t'es fait avoir. Comme ça, le Tanya prend la responsabilité de dire et d'inscrire pour toutes les générations. Donc, vous avez raison, mais on ne peut pas répondre à votre question parce qu'elle est trop bonne pour être répondue. Donc, c'est pour ça que je dirais que chacun doit, d'une certaine manière, s'en remettre à Dieu d'abord et à son expérience personnelle, de se dire « je dois faire, je dois donner » et que Dieu m'aide à ne pas me tromper lorsque je donne ce que je dois donner à qui je dois donner. Que Dieu m'envoie ceux qui méritent vraiment mon don. Mais ce n'est pas entre mes mains. C'est pas à moi de décider qui mérite et qui ne mérite pas, parce que c'est ça ce que l'Yetzer attend pour surtout ne rien, me pousser à ne rien faire. Sur ces bonnes paroles, qu'on soit zoré, qu'on ait le mérite, Bezrat Hashem, surtout vous qui êtes plus que nous de véritables chava, d'être véritablement des donneurs, d'être de vrais chassidim, et que la fête d'aujourd'hui nous inspire de bonnes décisions. Amen. Vechen Yiratson.